Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Le golem et ses métamorphoses.
C'est quoi ce monstre ?
C'est le golem de Prague. Défenseur légendaire du peuple juif. Un rabbin créa cette créature magique avec de la simple glaise.
C'est quoi ce monstre ? Demandent effarés les Simpsons. Mais au parc Rabinovitch, à Jérusalem, des kyriels de gamins l'ont apprivoisé. Ils entrent par le dos d'un golem bon enfant que leur ont fabriqué Nikit Saint-Phal et Tingli, le couple de la fontaine de Beaubourg. Le golem est là-bas devenu un toboggan. Métamorphose sans fin du golem. À l'origine, il est fait d'argile, il est tellurique, mais dans les comics américains, il est devenu Superman et il vole. Où est son origine d'ailleurs ? Selon la légende qui fixe sa naissance à Prague, son argile première vient des rives de la Utalva, mais son voyage avait commencé bien avant. Son créateur l'aurait neutralisé et déposé dans le grenier d'une synagogue, recouvert d'un châle de prière. Mais ne revient-il pas régulièrement ? Le grand intellectuel juif, Gershom Scholem, golem, remarquait que l'ordinateur était habité de la même énergie silencieuse que le golem. Et ce n'est pas un hasard si le mot « robot » est né dans la langue tchèque. Le robot, tel le golem, est né de la volonté de la main de l'homme. Il est une création seconde, mais qui semble pouvoir dévorer la première. Nous allons aujourd'hui entrer dans une inquiétante étrangeté.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Tenu par la main dans l'obscurité par Ada Ackermann.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes la commissaire de l'exposition Golem, les avatars d'une légende d'argile qui se tient au musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'à la mi-juillet. On y voit en particulier tout ce qu'on fait du golem d'innombrables artistes. Mais les artistes n'ont pas nécessairement le pouvoir sur le destin de leurs œuvres, non plus que le golem n'avait pas nécessairement pouvoir sur ses avatars.
Oui, mais c'est la raison justement pour laquelle il s'y intéresse, et c'est aussi ce qu'on a essayé de montrer dans l'exposition, c'est qu'il y a un vrai parallèle entre la création du golem et la création artistique, où l'œuvre prend sa vie, vit de manière autonome et échappe au dessein créateur.
Dans le judaïsme, la tradition du golem existait avant le mot tel qu'il se serait cristallisé à Prague au XVIe, XVIIe siècle.
En effet, vous trouvez déjà le mot golem dans la Bible, au livre des psaumes, où là, on l'utilise pour parler d'Adam. Ensuite,
et là, il est question de la glaise.
Alors oui, parce que Adam, comme le golem, est fait en terre. Et là, golem désigne une masse informe, une masse qui doit être ébauchée. C'est la masse qui n'a pas encore d'esprit, qui n'a pas encore d'âme. Et vous avez aussi, dans le Talmud, des mentions d'êtres artificiels, des hommes, des veaux. Et à partir du XIIe siècle, on va utiliser le terme de golem pour parler de ces créatures artificielles. Et ça génère de nombreux débats dans les cercles kabbalistiques juifs, puis ensuite chrétiens, où on se demande comment on pourrait fabriquer un golem, quelles sont les recettes, quelles sont les méthodes, et surtout, qu'est-ce que ça implique ? Est-ce qu'on peut considérer que cet être, cet homme artificiel, est un homme à l'instar des autres ? Est-ce qu'il peut faire partie des prières ? Est-ce que si on le tue, c'est un péché, etc.
Mais ce serait, enfin du moins on le croit depuis le XIXe siècle, qu'au XVIe, XVIIe siècle, sous le règne de l'empereur Rodolphe, à Prague, serait né vraiment le golem. L'empereur Rodolphe, alors il vit dans le château, là en haut de Prague, dans un cabinet de curiosité qu'il voudrait étendre à l'infini.
Oui, alors avant d'arriver à Prague, le golem a eu d'autres légendes qui sont moins connues, notamment en Pologne, mais c'est vrai que c'est vraiment avec la légende de Prague qui devient célébrissime, et notamment parce qu'on aurait, c'est vraiment à ce moment-là que ça apparaît, on aurait prêté au golem la mission de défendre la communauté juive qu'on accuse de persécution. Et Rodolphe II, effectivement, vous l'avez dit, hein, il est dans ce cabinet de curiosité, il est passionné de magie noire, de cabale, d'ésotérisme, mais aussi d'astrologie, l'astrologie, il est entouré par les plus grands mathématiciens et astronomes de son époque, et donc on lui aurait prêté le désir de récupérer le golem et de s'être entretenu avec son créateur, le Maharal de Prague, Rabbin Löw.
Maharal
qui veut dire notre grand maître, le grand Rabbin Löw, et donc il aurait cherché à récupérer le golem auprès du rabbin.
Alors voici l'ambiance de la vieille ville de Prague, avec ses ruelles où communiquent la vie, la mort, le rêve. C'est dans une dramatique de la télévision française de Jean Kerchbron qui nous a saisis quand on était petit, pour ceux qui ont eu la chance de la voir, d'effroi.
Il entre. Il est comme chez lui. Il sort un précieux livre. Il l'ouvre. La grande initiale L. Du chapitre intitulé « La fécondation de l'âme ».
Éveille-toi, dormeur. Éveille-toi. Dès que commence l'éveil, se produisent d'énormes changements. Tu vivras quantité d'aventures que tu ne comprendras pas, jusqu'au jour où tu reconnaîtras qu'il n'y a pas d'aventure, mais un destin, poursuivant une seule ligne, et qui te donne tantôt du fouet, tantôt du sucre. Avance à travers les ombres aimantées des hommes et des circonstances, jusqu'au lieu où brille ta lumière, et où t'attend ton propre visage.
Bon, ça, c'est un golem façon Louis Powells. Le Louis Powells, non pas du Figaro Magazine, mais du magazine Planète, qui invitait toujours à des voyages à la pointe extrême de soi-même, au bout desquels on ne trouvait que soi-même. Mais je voudrais que vous vous arrêtiez, Ada Ackermann, sur la question de la lettre. Parce que ce golem qui ouvre un livre à la lettre L, il a été fabriqué par le Maharal, le grand maître Löw, à partir d'un jeu magique sur les lettres ?
Oui, le golem, c'est littéralement, c'est le cas de le dire, un être fait de lettres, puisqu'en fait, on l'anime en lui écrivant, alors il y a plein de possibilités, mais souvent on lui écrit un mot sur le front en hébreu, Emet, qui veut dire vérité, ce qui lui donne la vie. En même temps, on récite les lettres de l'alphabet hébraïque qu'on combine et qu'on permute, et ça aussi, ça contribue à lui insuffler la vie, parce que dans la tradition juive, vous le savez, la lettre a vraiment un pouvoir créateur, et on s'appuie dans les rituels sur le golem, sur un ouvrage qui s'appelle le Sefer Yetzirah, le livre de la création, qui détaille la manière dont Dieu a créé le monde en utilisant les lettres.
C'est un livre du 3e, 4e, 5e siècle.
On n'est pas sûr de sa date, c'est entre le 3e et le 5e. Et le golem, dans la légende, lorsqu'il est désactivé, vous l'avez dit, on le met dans la vieille synagogue avec les pages de manuscrits qu'on doit enterrer. Donc le golem, il est tout le temps
accompagné. On ne va pas le neutraliser tout de suite, si vous le voulez bien.
Bien sûr.
Le grand rabbin Löw n'a pas tous les secrets, il n'a pas su lui communiquer la parole.
Non, parce que sinon, on aurait fait exactement la même chose que Dieu, et ça c'est impossible. Il faut que le golem reste un être imparfait. Donc il est non seulement dépourvu de parole, mais il est aussi traditionnellement dépourvu de sexe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas communiquer avec ses pères, mais il ne peut pas non plus transmettre dans la génération suivante.
Mais c'est quand même une transgression que d'opérer une création seconde.
Oui, et ça témoigne d'une fascination pour le pouvoir créateur, voire sculptural de l'homme, puisque quand on crée un golem, on se façonne un double. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, entre autres, les artistes s'y sont intéressés. C'est vraiment un mythe de création artistique, comme par exemple Pygmalion et Galatée. Et c'est vraiment ce qu'on a exploré dans l'exposition.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas une transgression particulière pour le judaïsme ?
Bien sûr.
Qui, d'habitude, interdit ?
Bien sûr.
La figuration ?
Alors après, ça peut être assez curieux. Par exemple, si vous reportez à l'ouvrage qui est essentiel sur le golem de Moshe Hidel, il explique qu'on recourt au mythe du golem pour démontrer qu'en fait, il y a des pratiques païennes parallèles où on fait parler des statues pour délivrer des oracles. Et en fait, le fait que le golem, lui, ne parle pas, montre qu'on ne pourrait pas avoir en fait des statues douées de paroles et de pouvoirs magiques. Donc vous voyez, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on utilise un récit fantastique pour contrer d'autres croyances. Et ça témoigne de ce désir, en tout cas de cette fascination pour la puissance culturelle de l'homme.
Je vous ai interrompu, Ada Ackermann, quand vous parliez de la neutralisation du golem. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal ?
Alors en fait, c'est plutôt son créateur qui a mal agi, puisque dans la plupart des légendes, on dit que le rabbin Lev ne l'aurait pas éteint pendant Shabbat. Et vous savez, pendant Shabbat, on ne doit plus travailler. Et donc le golem devient fou parce qu'il reste actif alors qu'il devrait se reposer. Et du coup, il détruit tout. Dans d'autres légendes, c'est la femme du rabbin qui utilise le golem à des fins domestiques alors que le golem est réservé à un usage collectif. Et donc ça transgresse tout.
Et on le met en réserve dans le grenier de la vieille synagogue. Le visage, il a un visage recouvert d'un châle de prière ?
Oui, le châle de prière, non, on le recouvre entièrement, dans l'idée qu'il puisse resservir plus tard.
Oui, parce qu'il revient régulièrement. Allez, dernier écho de la dramatique de Jean Kerjbrand à la télévision.
Environ tous les 33 ans, se produit un incident qui en lui-même n'a rien de terrifiant, qui répand un effroi collectif. Il se trouve qu'un homme imberbe, aux yeux obliques, absolument étranger, vêtu de vêtements démodés, descend la rue du vieux temple, puis disparaît. Moi-même, je l'ai rencontré. À cet instant, j'ai su que c'était lui, j'ai éprouvé une sorte de commotion. Tout de suite après, une foule inquiète me pressait de questions.
C'était vraiment le golem ?
Je ne dis pas qu'il existe. Je dis que régulièrement, dans l'espace d'une génération, éclate dans notre quartier une sorte d'épidémie psychique.
Mais on voit le golem ?
On le voit, oui. Quand on sent qu'on va le voir. Ainsi, tout à l'heure, vous avez parlé d'un inconnu. Et j'ai éprouvé les débuts d'un certain frisson. C'est que l'épidémie est en route.
On le voit, mais enfin, qui peut dire qu'il sait quelque chose sur le golem ? Ah bah peut-être le Rabbi Lev, il a écrit sur le sujet.
Non, il n'a pas écrit, c'est un des paradoxes. C'est-à-dire qu'il a écrit plus de 100 ouvrages, mais rien sur le golem. Et en fait, une des raisons pour lesquelles, je pense, on attribue le golem au Maharal de Prague, c'est parce que le Maharal a vécu très longtemps, jusqu'à 97 ans. Et donc, on lui prêtait presque des pouvoirs d'immortalité. Du coup, créer la vie, c'est un peu le pas suivant. Et puis, c'est aussi, je le disais, cette rencontre mystérieuse avec Rodolphe II qui a assuré un bien-être à la communauté juive. Donc, voilà, on crée un être protecteur pour les Juifs, le golem. C'est peut-être une manière de répondre à cet événement mystérieux.
Fixation de la légende, si elle peut être fixée au XIXe siècle. Un grand livre de Gustave Meyrinck en 1915, qui a beaucoup fait réfléchir Kafka dans son journal, et puis des ressurgissements réguliers. La chanson qu'on va entendre a été enregistrée par Yann Véric en 1952, je pense, enfin, si j'en crois votre catalogue de l'exposition du Musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris. Et elle est tirée d'une comédie de 1931.
Oui, enfin, la chanson date de 1931 et elle est aussi tirée de cette comédie de 1931, une comédie absolument dadaïste sur le golem, où le golem tombe amoureux, se suicide, et c'est extrêmement décalé par rapport à tout ce qu'on peut imaginer sur le golem.
Enfin, Gustave Meyrinck, qui a écrit le grand livre, il a tenté de se suicider très jeune.
Oui.
Il avait le revolver à la main. Et une lettre a été glissée sous sa porte sur la vie après la mort. Il ne s'est pas suicidé.
Oui, mais d'ailleurs, vous avez montré ces extraits de Jean Kerjbrand. Il faut le dire, c'est une adaptation de Meyrinck. Et on voit bien comment le narrateur est totalement déconcerté par rapport à son identité. Et le golem, c'est son double inquiétant. Donc, on retrouve ce désir suicidaire dans Meyrinck, comme chez Kerjbrand.
Ti v divoucí je to totiž věru, opravdu docela skutečně. Miloval tu svůdnou Evi dceru, velice a taky zbytečně. Jednou takhle z rána do poledne zaskočil si golem na pivo. Jen tam vejde, hospodský se zvedne, povídá mu voní nádivo. zrovna tady o nich řeč se vede, co to mají s rabínovou tetou. Golem zrudne a potom hned zbledne, veď se do toho se nepletou. Vypil, zaplatil a když byl venku, zmocnil se ho spravedlivý hněv. Skrz to, že mu pomlouvaj milenku, s prsou vydral se mu hrozný řev. Podle této verze celý příběh úplně by se nám otočil. Takže bude nejlíp píti za to, že se kolem přec jen rozmočil.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Le golem au Musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris, une exposition, un catalogue chez Azan, couleur d'argile, la commissaire Ada Kerman, ici présente. On va arriver au XXe siècle, au cinéma consacré au golem. De temps en temps, il y a des projections, hommages.
Oui, non seulement l'exposition...
Le mage, c'est drôle.
L'exposition est ponctuée d'extraits, et puis effectivement, il y aura des ciné-concerts le 19 mars...
Et on va projeter le film muet de Wegener, fondateur en 1920. Et puis, ce film de Duvivier, qui date de 1936, trois ans après la prise du pouvoir par Hitler. C'est pas un philosémite, Duvivier, à l'époque?
Non, pas vraiment, mais ce film-là, par rapport à ce qu'il a pu faire précédemment, est peut-être un peu plus philosémite.
L'empereur est dans son cabinet de curiosité, il est curieux du golem, le méchant chancelier... Harry Bohr veut le lui livrer, même s'il faut exécuter les Juifs. Mais se lève un tout jeune rabbin.
Si la calamité devenait trop grande, je vous donnerai un signe. Et Golem se réveillera une dernière fois. Ce sont ses propres paroles.
Eh bien, tu es l'héritier de Rabbi Lo. Tu peux rendre la vie à Golem. Il faut retourner à la synagogue, lui ouvrir les portes de son grenier. Demain, peut-être, il sera trop tard.
Alors Golem s'éveillera, et tu lui diras, la révolte est la loi de l'esclave. Va, Golem.
La révolte est la loi de l'esclave.
Et le Golem ira, rétablissant partout la justice, ramenant pour tous des jours meilleurs.
Pour moi aussi, Jacob.
Pour tous ceux qui seront vivants, et pour ceux qui naîtront de leurs amours.
Oh, Jacob, qu'elle vienne, cette heure.
Il y a du vent, le vent de l'espoir et de la révolte, peut-être dans les micros de Duvivier. Alors, le golem et la Shoah.
Oui, alors, le golem, c'est un être qui peut être protecteur, et du coup, on peut tout à fait imaginer que les artistes et les écrivains fantasment sur la possibilité d'avoir disposé du golem pendant la Seconde Guerre mondiale et d'inverser le cours de l'histoire. Et du coup, Duvivier est un peu prémonitoire par rapport à cela, puisqu'il appelle à la résistance à travers le golem. Et ce schéma du golem qui se lèverait pour défendre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, on le trouve beaucoup dans les comics américains, notamment, on en montre quelques-uns dans l'exposition, Breath of Bones, Ragman, et bien sûr, on sait aussi en filigrane, du coup, cette figure du super-héros qui devient très importante dans l'imaginaire du comics américain. À l'inverse, le golem est parfois dépeint comme ne pouvant pas mener à bien cette mission de protection. Et vous avez, par exemple, un artiste très important, Kitaï, qui représente le golem complètement accablé par le poids de l'histoire, un golem totalement impuissant.
Puis un autre, les mains coupées, les pieds coupés. Oui. Il y a eu une expo, juste avant la vôtre, c'est curieux, au musée d'histoire juive à Berlin, qui mettait davantage l'accent sur la Shoah.
Oui, en fait, donc c'est une très belle coïncidence qui montre que le golem est dans l'air du temps et qu'il faut s'y intéresser. Et donc c'est une exposition qui s'est finie en janvier et qui insistait bien sûr davantage sur la place du golem dans la culture allemande, chez Wegener entre autres.
Le cinéaste.
Et le cinéaste qui a contribué énormément à la popularité du golem. Et donc nous, on a collaboré sur ces deux projets, mais tout en créant des visions bien distinctes.
Mais bien sûr qu'il est dans l'air du temps, parce que comme disait l'immense intellectuel juif Gershom Scholem, c'est un ordinateur avant l'heure.
Tout à fait. Scholem appelle l'un des premiers ordinateurs en service israélien Golem 1, Golem Aleph. Il fait tout un ensemble de parallèles entre le Golem
Aleph,
c'est la première lettre de l'alphabet, et ce qui sert à animer le Golem. Et donc, il fait tout un ensemble de parallèles entre le Golem de Prague, le Golem légendaire, et l'ordinateur, puisque tous deux sont animés par des codes. Le code de la combinatoire des lettres hébraïques d'une part, et le code du langage binaire informatique d'autre part. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est que pour lui, l'informatique, c'est de la magie contemporaine, et c'est un golem perfectionné. Et alors, il se demande quel visage auront les golems à l'avenir. Et donc, l'exposition, c'est un peu une réponse à cette question.
Une énergie forte, l'ordinateur produit des discours, mais il est silencieux en même temps.
Peut-être plus. Enfin, en tout cas, dans la fiction, il prend la parole et c'est aussi très intéressant de voir ces retournements. Chez les Simpsons, le golem prend
Simpsons,
la parole.
On a entendu en exergue de
l'émission. Et il fait même un cours d'humour juif.
Oui. Alors, les robots aussi peuvent prendre la parole. Alors, le golem et les robots. Le mot « robot » vient vraiment du tchèque ?
Oui, ça veut dire, donc c'est rabota, qui veut dire corvée, labeur. Il est inventé par Joseph Čapek, le frère de Karel Čapek, qui est le premier à utiliser le mot robot. Et eux deux connaissent très bien le golem, ils viennent de Prague. Ils ont écrit un livre d'ailleurs qui retrace les aventures de l'homme artificiel à travers les âges. Et du coup, il y a vraiment cette filiation qui est pensée dès les années 20 entre le golem d'argile et le robot tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Parce qu'on prête parfois l'invention du mot à Isaac Asimov, qui n'est pas sans mérite. D'abord, il est russe. Et puis, naturalisé américain, il a écrit beaucoup de textes sur les robots. En français, le grand livre des robots, et émis la triple loi.
Tout à fait, que nous reproduisons dans l'exposition.
Alors, vous pouvez la dire, de mémoire.
Oui, à peu près. En gros, un robot ne doit pas porter atteinte à un être humain ou laisser un être humain dépérir par son inactivité.
Mais
deuxième règle, un robot doit obéir aux ordres d'un humain si ces ordres ne contreviennent pas à la première règle. Et troisième règle, un robot doit tout faire pour maintenir ou assurer sa sauvegarde, à condition que ça ne contrevienne pas ni à la deuxième règle, ni à la première.
Oui, mais enfin, toute l'œuvre d'Asimov nous montre des situations qui questionnent ces lois.
Oui, des cas limites et qu'on n'a pas fini d'explorer. Et la fiction hollywoodienne s'en est très bien emparée.
Alors ça, c'est un extrait d'une nouvelle d'Asimov où on voit, face aux terriens, un robot qui s'appelle Cutie.
Ouais.
Notre ami. Notre ami, oui, mais il est un peu étrange, comme dirait le docteur Freud, notre ami.
Le robot QT1 était assis, immobile. Les plaques brunies composant son corps brillaient à la lumière des luxites et les cellules photoélectriques d'un rouge éclatant constituant ses yeux étaient fixées sur le terrien qui se trouvait de l'autre côté de la table. Powell réprima une soudaine crise de nerfs. Ces robots étaient dotés de cerveaux spéciaux. Sans doute, la triple loi des robots était-elle respectée? C'était là une obligation essentielle. QT1 offrait donc toute sécurité. Et pourtant, les gribouillages mathématiques sur le papier ne constituaient pas toujours la protection la plus rassurante contre les mystères de l'âme robotique. Le robot prit enfin la parole. Sa voix possédait ce timbre glacé inséparable du diaphragme métallique. Car il me semble bien improbable que vous ayez pu me créer.
Ah ben ça y est, vous aviez prévenu, Ada Kerman y parle. Il me semble bien improbable que vous ayez pu me créer. Ça y est, il a pris son autonomie.
Oui, et on trouve beaucoup de cas de golems qui disent d'ailleurs à leur créateur qu'ils n'auraient pas dû les créer. Et donc on consacre toute la dernière partie de l'exposition à ce thème du golem comme robot, parce qu'il y a beaucoup de parallélismes très intéressants. Je parlais des débats qui animaient les cercles kabbalistiques au sujet du golem. On retrouve ces débats aujourd'hui, des débats éthiques. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au robot? Est-ce qu'il menace notre humanité? Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'un robot, etc.? Donc c'est vraiment des questionnements tout à fait passionnants.
Il y a un droit des robots maintenant, avec des avocats spécialisés dans le droit des robots.
Exactement, donc la fiction dépasse la réalité. Et puis aussi, ce que je trouve de très très important, c'est que, surtout quand on regarde les fictions littéraires, mais cinématographiques, c'est qu'on reprend ce canevas qui consiste à montrer comment la créature échappe à son créateur, se révolte contre lui. Et ça, c'est vraiment le golem de Prague qui se retourne contre le rabbin Löw qu'on retrouve aujourd'hui.
Mais plus subtilement encore, le golem, il est créé des mains de l'homme qui modèle la glaise. Mais alors maintenant, le robot intervient dans le corps de l'homme dans un certain nombre d'opérations. Ou alors il mesure toutes les performances de l'homme qui marche, qui court, à tel point que l'homme risque d'être dévoré par les données qui sont ainsi accumulées par les robots.
Oui, c'est le renversement qui est le plus effectivement intéressant et productif. C'est qu'en fait, le golem, qui était un être complètement rudimentaire, devient un être peut-être plus perfectionné que nous-mêmes et qui justement va nous asservir. Donc le maître est renversé et c'est quelque chose qui est interrogé notamment avec le transhumanisme et le post-humanisme. Et ce qu'on cherche aussi à montrer dans l'exposition. Et aussi, c'est pour s'interroger qui finalement est le véritable golem. Peut-être que nous, à force de créer des machines et des artifices, nous devenons nous-mêmes des robots, des êtres conditionnés.
Donc on peut recommander d'aller à cette exposition parce que tous les thèmes qui ne sont pas abordés sur la robotique dans la campagne présidentielle, que tel ou tel candidat a voulu quand même introduire de force mais n'y est pas parvenu, jusqu'à la taxation des robots, qui sait, c'est présent au Musée d'art et d'histoire du judaïsme.
Oui, et puis quand même aussi tout l'imaginaire lié au golem.
On oui, parce que ce qui vous plaît le plus, c'est qu'à l'horizon de la technique, surgit l'imaginaire.
Mais oui, mais là, on rejoint le Rabbi Löw, où la magie et la science sont indissociables.
Golem, force aveugle et bienfaisante, ta mission est accomplie. Retourne à la poussière d'où tu es sorti.
Alors, vous savez ce qu'on fait demain? C'est un petit peu dans le prolongement. On raconte le personnage qui a donné naissance à une ville, Saint-Denis. Alors, vous savez ce que dit Michel Serres de Saint-Denis? L'évêque porte sa tête devant lui. Eh bien, c'est comme un ordinateur. Il a tout externalisé de ses fonctions. Et nous sommes tous des Saint-Denis qui avançons ainsi avec notre tête découpée devant nous.